Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'extension du salariat pose-t-elle le débat entre ceux qui y voient une servitude, une forme perverse de l'esclavage, et ceux qui y voient une liberté contractuelle, respectons la volonté individuelle, demande le juriste Alain Supiot. Qu'est-ce qui s'est joué à la Cour suprême des États-Unis avec l'arrêt Lochner contre New York en 1905 et l'argument de la liberté du travail du salarié? De Proudhon aux chevaliers américains du travail, quel modèle de démocratie participative a pu émerger au XIXe siècle? Enfin, comment la question de la démocratie économique s'est-elle déplacée du terrain de la nation à celui de l'entreprise? Et que visaient les réformes du New Deal au XXe siècle? Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, nous propose depuis la semaine passée une grande réflexion autour des figures juridiques de la démocratie économique de la Grèce antique à aujourd'hui. Dans le cours précédent, Alain Supiot a ouvert le grand chapitre de la démocratie face à la dynamique du capitalisme. Il a montré comment des deux côtés de l'Atlantique, les grandes sociétés de capitaux ont d'abord été perçues comme un danger pour la démocratie. De l'essor des grandes compagnies de commerce et de finance au XVIIe siècle, au début de la révolution industrielle, le juriste a mis en avant que l'évolution du droit des sociétés commerciales est un bon témoin juridique de l'aversion démocratique première contre l'accumulation des richesses et de la façon dont elle finit par laisser place à son contraire. Or, ces principes de frugalité et d'égalité des conditions économiques n'étaient pas favorables à l'essor du capitalisme moderne. Un changement de philosophie politique a conduit à ne plus y voir une condition de la démocratie. Entre-temps, les mutations de la révolution industrielle ont soulevé de nouveaux enjeux. Au début du XXe siècle, Louis Brandeis, juriste américain, théoricien de la malédiction de la grandeur, note quant à lui que le principal obstacle à une démocratie véritable se trouve dans la concentration du pouvoir économique entre les mains d'une oligarchie financière et industrielle. Mais avant d'évoquer la démocratie participative, les lois antitrust et les réformes du New Deal en deuxième partie de cours, nous plongeons tout de suite au début de la révolution industrielle. L'extension du salariat y modifie l'organisation du travail et les termes du débat sur la liberté, tandis que l'idéal républicain du bien commun commence son délitement. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 décembre 2016 pour le cours d'Alain Supiot, aujourd'hui, la démocratie face à la dynamique du capitalisme.
Le travail salarié est-il ou non compatible avec l'état d'un citoyen libre? Pour les hommes comme Jefferson, comme pour ceux de l'Antiquité classique, il ne pouvait exister dans une république démocratique que deux catégories de travailleurs. La première, c'est les esclaves. Et d'ailleurs, les pères fondateurs des États-Unis, à commencer par Jefferson lui-même, étaient profondément racistes et s'accommodaient fort bien de l'esclavage, même quand ils en dénonçaient le principe. Et l'autre catégorie, les travailleurs indépendants, dont l'archétype est celui qui vit de la culture de la terre qu'il possède. Cette opinion demeura dominante tout au long du XIXe siècle, même si l'on admit très vite que les artisans, les petits commerçants qui dirigeaient leurs propres affaires sans dépendre durablement d'un donneur d'ordre, trouvaient eux aussi dans leur travail les habitudes d'autonomie et de responsabilité requises par la citoyenneté. Donc les artisans incarnèrent donc pour un temps une version citadine de ce que Sandel appelle l'économie politique de la citoyenneté, par opposition à la démocratie procédurale. c'est-à-dire une organisation du travail qui inculque à l'échelle de la nation les vertus requises par un régime démocratique. Alors bien sûr, ces artisans employaient souvent eux-mêmes des travailleurs à gages, mais l'état de ces derniers était perçu comme une étape inévitable à franchir avant de se mettre à son compte. Donc faute d'être un état transitoire conduisant à l'indépendance économique, le travail à gages était vu par beaucoup comme voisin, voire même comme pire que l'esclavage. Telle était, par exemple, la position prise par le philosophe social Horace Bronson, qui vit de 1803 à 1876, dans un article dirigé contre Thomas Carlyle, intitulé « The Laboring Class », qui a eu un grand retentissement et fut ensuite publié sous forme d'opuscule en 1840, il écrivait ceci « Le salariat est un procédé astucieux dont le diable gratifie les consciences délicates qui peuvent ainsi conserver tous les avantages de l'esclavage sans avoir à supporter les coups, les soucis et la réprobation d'un propriétaire d'esclaves. Il ne doit pas y avoir une classe de nos semblables condamnée à trimer leur vie durant comme travailleurs à gages. Si le salariat peut être toléré, ce doit être pour chaque ouvrier dans des conditions telles qu'à l'âge de fonder un foyer, il ait accumulé suffisamment de ressources pour être un travailleur indépendant, disposant de son propre capital, de sa propre ferme ou de son propre atelier. » Donc le but du mouvement du travail américain dans sa première phase, ça a été l'indépendance pour tous. Et cette commune réprobation du salariat et de l'esclavage s'opposait à l'idéologie abolitionniste la plus répandue, qui estimait au contraire que le travail salarié était à la fois la marque et la conséquence logique de l'affranchissement des esclaves. Pour un juriste abolitionniste comme William Jay, il était par exemple évident qu'un esclave affranchi n'ayant pas les moyens de travailler à son compte, il devait en fait, mais non plus en droit, continuer de travailler pour son ancien maître. Mais une fois affranchi, il le faisait librement, en vertu d'un contrat qui symbolisait sa nouvelle condition juridique d'homme libre. Le travail, écrivait-il, n'est plus la marque de sa servitude et l'incarnation de son malheur, il est la preuve de sa liberté, car il est volontaire, pour la première fois de sa vie, il est parti à un contrat. Donc, il est volontaire, il est parti à un contrat. L'important à noter ici est la réduction de la liberté à la liberté contractuelle, c'est-à-dire au respect de la volonté individuelle. Et cette conception purement consensualiste de la liberté est demeurée longtemps minoritaire aux États-Unis face à la conception statutaire défendue par Bronson et avant lui par Montesquieu ou Rousseau, selon qui la démocratie requérait des citoyens non seulement libres de contracter, mais travaillant à leur compte et qui ne fussent pas séparés par de trop grandes inégalités de richesse. Alors, cette double exigence d'indépendance dans le travail et d'égalité des conditions économiques était encore celle de la principale organisation représentative des travailleurs américains jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui se nommait les Chevaliers du Travail. Et leur but était ainsi décrit dans le préambule de leur déclaration constitutive. Alors, je vais vous le lire en français. Sauf à être enrayé le développement alarmant et l'agressivité des grands capitalistes et sociétés commerciales conduira inévitablement à la paupérisation et un déclassement irrémédiable des masses laborieuses. Il est impératif, si nous voulons jouir pleinement des bienfaits de la vie, qu'une borne soit posée à l'accumulation injuste et au pouvoir maléfique de la richesse agrégée. Cet objectif prioritaire ne peut être réalisé que par l'effort commun de ceux qui obéissent au commandement divin « Tu travailleras à la sueur de ton front ». Donc, vous voyez ici, il s'agit d'une définition de tous les travailleurs. Ce n'est pas les salariés contre les travailleurs indépendants, c'est tous ceux qui vivent de leur travail. Aussi avons-nous fondé l'Ordre des Chevaliers du Travail. Donc, les Chevaliers du Travail étaient organisés sur le modèle maçonnique du compagnonnage et ils entendaient représenter donc tous ceux, tous les travailleurs, toutes les catégories de travailleurs, salariés ou non, blancs ou noirs, à l'exception notoire, disait-il, des avocats et des banquiers, ainsi que de tous ceux qui vivaient du commerce de l'alcool. C'était les trois catégories qu'il n'entendait pas représenter. Donc c'était un mouvement à la fois anticapitaliste, mais confiant dans la démocratie électorale. Il disait le mouvement du travail doit être absolument indépendant, mais chacun de ses membres doit participer à la vie politique et exercer son droit de vote dans un sens qui permette la réalisation des buts poursuivis par le mouvement du travail. Donc il luttait contre les inégalités économiques et la concentration du capital. Et notamment, les chevaliers du travail revendiquaient la nationalisation des chemins de fer et des télécommunications. Et leur devise, que vous voyez inscrite ici sur leur emblème, je vous la traduis aussi, c'est « Le gouvernement le plus parfait est celui où la souffrance de chacun est l'affaire de tous ». Eh bien, cette devise est une citation qui est empruntée à Solon, nous avons parlé tout à fait au début du cours, preuve de la mémoire longue des conditions économiques de la démocratie. Tel était l'horizon du mouvement social américain jusqu'encore à la fin du XIXe siècle. Mais il est devenu clair progressivement que le salariat était pour beaucoup une condition durable et non plus une simple étape vers la mise à son compte. Et lorsque cette évidence s'imposa, le mouvement ouvrier américain préconisa l'organisation de coopératives. Bon, il était clair qu'un certain nombre, un nombre grandissant de personnes ne pourraient pas vivre d'un travail indépendant, mais se trouvaient dans une condition de subordination dont le principe était condamné par le mouvement. Alors comment sortir de cette difficulté? Eh bien, c'est par le principe coopératif. Plutôt que le développement d'entreprises capitalistes, le mouvement préconisait des coopératives unissant producteurs et consommateurs d'un même bien ou service. Et de telles coopératives ne poursuivaient pas seulement des buts économiques, mais aussi politiques et éducatifs. Voilà ce que disaient les chevaliers du travail. « Nous devons amener nos membres à lire et penser et à viser dans la vie quelque chose de plus élevé et de plus noble que de peiner jour après jour, semaine après semaine et année après année. » Donc il s'agit de promouvoir des formes de vie dont l'économie n'est qu'un moyen ou l'enrichissement et pas une fin. Alors cette forme de démocratie économique correspondait à ce que préconisait à la même époque Proudhon sous le nom de démocratie industrielle. La démocratie industrielle était aux yeux de Proudhon la voie à suivre pour éviter le double écueil du capitalisme et de l'étatisme, représenté d'un côté par ce que Proudhon appelait les économistes à courte vue, dévots du laisser-faire, et de l'autre ce qu'il appelait les socialismes fanatiques, qui nous conduisaient à des formes d'emprise étatique. Or, Proudhon est anarchiste, comme vous le savez. Et l'instrument de cette démocratie industrielle était, aux yeux de Proudhon, le mutualisme. Nous avons déjà cité la définition tout à fait au début du cours. Donc le principe qui doit prévaloir à la place du salariat et de la maîtrise est la participation, c'est-à-dire la mutualité des services venant compléter la force de division et la force de collectivité. Il y a mutualité en effet, écrivait Proudhon, quand dans une industrie, tous les travailleurs, au lieu de travailler pour un entrepreneur qui les paye et garde leurs produits, sont censés travailler les uns pour les autres et concourent ainsi à un produit commun dont ils partagent le bénéfice. Et vous voyez que c'est dans ce passage, c'est dans un ouvrage dont je vous recommande la lecture, le manuel du spéculateur en bourse, c'est un des textes assez intéressants à lire de Proudhon. C'est dans ce passage consacré à démocratie industrielle, comment dit du travail par le travail ou mutualité universelle. Donc il s'agit d'un nouveau principe d'organisation de la société fondé sur le travail et la démocratie et qui était censé permettre donc à la fois les impasses de l'individualisme et du libéralisme égoïste et de l'étatisme. Alors cette réponse à la question posée par la division du travail dans la grande industrie est selon Proudhon la seule qui soit compatible avec l'idée de démocratie. Parce que non seulement tout individu engagé dans une telle association ouvrière en est copropriétaire responsable et participe aux bénéfices et aux pertes, mais il dispose aussi, au sein de ces organisations mutualistes, dans cette démocratie industrielle, d'un certain nombre de droits qui sont typiques de la citoyenneté. On trouve une énumération de ces droits dans un autre de ces textes, où figure le droit indivis dans la propriété de la compagnie, le droit d'en remplir successivement toutes les fonctions et d'en remplir tous les grades. Il faut que ce travail soit éducatif, vous avez l'idée de l'instruction, l'apprentissage, c'est-à-dire de la formation permanente, dans les termes modernes. Et il faut que cette éducation assure à chaque ouvrier, à l'époque de la maturité, une aptitude encyclopédique et un revenu suffisant. Vous voyez, on a à la fois un but culturel et économique. Et à cela s'ajoute le principe électif dans l'accès aux fonctions de direction et le vote pour approuver les règlements du travail. Donc ce modèle proudhonien, dont il ne faut pas méconnaître la force de l'influence dans l'histoire sociale française. L'anarcho-syndicalisme a été un très, très puissant. J'en dirai un mot tout à l'heure à propos de la charte d'Amiens. C'est celui d'une démocratie participative qui table sur la division du travail pour contribuer à l'éducation et renforcer à la fois l'autonomie de chacun et la solidarité de tous. Dans l'esprit de Proudhon, comme dans celui des chevaliers américains du travail, la forme coopérative ou mutualiste permet de concilier la division du travail avec la pratique citoyenne et de concilier la liberté avec la responsabilité individuelle. Et elle met ainsi en œuvre une démocratie vivante qui combine participation directe, fonction éducative et mécanisme représentatif. Parmi les défenseurs de cette conception, aux États-Unis, il n'y avait pas que des militants du travail ou syndicaux, mais aussi un certain nombre de juristes, et en particulier une grande figure du droit américain qui était Louis Brandeis, qui est né en 1856, mort en 1941. Et Brandeis, avant d'être nommé à la Cour suprême en 1916 par le président Wilson, donc ça a été un membre de la Cour suprême, s'était fait connaître comme avocat des pauvres et défenseur de la justice sociale. Alors Brandeis était proche des vues de John Dewey, et Brandeis était un grand lecteur de Dewey, et il voyait dans la concentration du pouvoir économique dans les grandes entreprises capitalistes un risque mortel qu'il désignait comme le risque du despotisme industriel. « Je suis conduit à croire, écrivait-il, que s'il y a bien plusieurs causes de désordre, il y en a une qui est fondamentale. Il s'agit du conflit nécessaire, du contraste entre notre liberté politique et notre absolutisme industriel. Nous sommes politiquement libres, peut-être aussi libres qu'il est possible de l'être, mais d'un autre côté, s'agissant des problèmes industriels, la position d'un travailleur est exactement inverse. Le salarié individuel n'a ni liberté d'expression, ni droit de vote. Et la principale objection que je vois à la très grande entreprise est qu'elle rend possible, et dans de nombreux cas inévitable, l'exercice d'un absolutisme industriel. » Alors on ne saurait désigner plus clairement la menace que la concentration du pouvoir économique et financier fait peser sur la démocratie et la nécessité de penser celle-ci comme démocratie économique et non pas seulement comme démocratie politique. Cette démocratie économique peut-elle résulter de la négociation collective dans les entreprises? Selon Brandeis, la réponse à cette question est clairement négative. Une négociation collective ayant pour seul but les questions de salaire et de temps de travail ne peut conduire dans le meilleur des cas qu'à ce qu'il appelait une monarchie constitutionnelle dans l'entreprise. La démocratie industrielle, qu'il appelait de ses voeux, supposait non seulement une meilleure rétribution du travail, mais aussi la participation des travailleurs à la direction des grandes entreprises. Alors, ces perspectives n'ont pas été sans lendemain juridique, puisque ce sont celles qui continuent d'inspirer, je l'ai dit, ce qu'on appelle aujourd'hui en France l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les coopératives, les mutuelles, les associations. Mais rétrospectivement, on peut dire que leur principal apport fut de déplacer, ou leur principal effet peut-être, fut de déplacer la question de la démocratie économique du terrain de la nation à celui de l'entreprise. L'aspiration à une démocratie industrielle fondée sur l'association ouvrière s'est en effet heurtée à deux types d'oppositions qui allaient progressivement l'emporter à partir de la fin du XIXe siècle. La première opposition était celle, bien sûr, des économistes libéraux partisans du laisser-faire. Hier comme aujourd'hui, ils étaient radicalement hostiles à toute intervention législative susceptible d'entraver la liberté contractuelle des employeurs et des salariés et trouvaient dans la jurisprudence, nous allons le voir, un soutien déterminé et efficace. Or, c'est cette analyse que la Cour suprême avait imposée lorsqu'elle avait eu à se prononcer sur la constitutionnalité des premières lois sociales et notamment les lois limitant la durée journalière du travail. Ces lois connurent aux États-Unis un, comme en Europe, un remarquable essor. En 1868, 7 États avaient imposé la journée de 8 heures, qui fut également mise en œuvre par le gouvernement fédéral pour ses propres agents. Mais cet essor législatif fut combattu par les tribunaux au nom de la liberté contractuelle des salariés. À la fin du XIXe siècle, 60 lois avaient ainsi été invalidées par les tribunaux et ce nombre dépassait les 200 dans les années 20. L'argument avancé par les juges pour invalider ces lois sociales était celui de l'atteinte à la liberté contractuelle. On retrouve la notion de liberté réduite au contrat que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc c'était l'atteinte à la liberté contractuelle en général et à la liberté du travail du salarié en particulier. Cette thèse fut consacrée dans un arrêt extrêmement fameux, qui est l'arrêt Lochner contre New York, qui date de 1905. J'ai retrouvé pour vous cette touchante photo de famille, où trône Joseph Lochner, qui était boulanger, et qui faisait travailler ses ouvriers plus de 60 heures par semaine, en violation de la loi de l'État de New York. Cette loi avait en effet fixé cette limite de 60 heures à la durée hebdomadaire du travail des ouvriers boulangers. Alors, cette loi fut déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême pour les motifs suivants. Alors, je ne vais pas tout vous traduire, je vous traduis les passages les plus importants. Le droit de contracter inclut le droit d'acheter et de vendre du travail. Donc là, vous voyez la réduction du travail à une marchandise qui s'achète et qui se vend. La loi en cause, alors la loi en cause, l'État de New York disait, c'est pour protéger la santé, parce que des durées excessives de travail sont préjudiciables à la santé. La Cour suprême écarte cet argument en disant, en réalité, c'est une ingérence illégale dans les droits des individus, tant les employeurs que les salariés, de faire des contrats relatifs au travail dans les termes qu'ils pensent les meilleurs. Et la Cour suprême de poursuivre, les lois du type de celles en cause, qui limitent le nombre d'heures durant lesquelles des hommes adultes et intelligents peuvent travailler pour gagner leur vie, ne sont que des ingérences abusives dans les droits individuels. Vous voyez, cet argument a retrouvé ces derniers temps, je ne dirais pas de la fraîcheur, mais de l'actualité politique. Alors, hormis des cas où il y aurait vraiment un danger manifeste pour la santé, les individus sur les droits desquels les lois ont ainsi empiété sont sous la protection des dispositions de la Constitution fédérale relatives à la liberté contractuelle et aux droits des personnes. Alors, il faut s'arrêter un instant sur la base juridique ainsi invoquée au soutien de cette décision. Il s'agit du 14e amendement de la Constitution américaine. Cet amendement avait été adopté en 1868 pour protéger les droits civiques des anciens esclaves. Vous voyez, dans tout ce débat, la question de l'esclavage est permanente. Reconnaissant la citoyenneté à, je cite, « toute personne née ou naturalisée aux États-Unis », fin de citation, cet amendement dispose que, je cite, « aucun État ne fera ou n'appliquera de loi » qui restreindrait les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis, ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière, ni ne refusera à quiconque, relevant de sa juridiction, l'égale protection des lois. Alors, on comprend que les quatre juges dissidents dans l'affaire Lechner aient estimé qu'on ne pouvait déclarer une loi limitant la durée du travail contraire à ce 14e amendement sans étendre, d'une part, le champ d'application de ce dernier bien au-delà de l'objectif qu'il poursuivait, puisqu'il s'agissait de garantir la liberté des anciens esclaves, et d'autre part, sans étendre abusivement le pouvoir de la Cour suprême à des questions qui devraient rester de la compétence des États, puisque, vous l'avez vu, la Cour dit « tout individu assujetti à ce type de loi peut se prévaloir de la Constitution fédérale pour mettre en cause la législation adoptée par un État », donc la législation de limitation du temps de travail. Donc, il y avait des juges dissidents, on a des opinions dissidentes, ce qu'on appelle un « dissent » ou un « dissenting ». Et dans une opinion séparée, alors c'est dissent, il y en a certains qui sont extrêmement fameux dans la littérature juridique américaine. Et c'est justement le cas de l'un de ceux qui avait été rédigé dans l'affaire Lochner, par un juge dissident également, enfin dissident dans cette affaire, extrêmement fameux, qui était le célèbre Justice Oliver Wendell Holmes. Il fit valoir que la Cour n'avait pas à consacrer une théorie économique en l'espèce celle du laisser-faire, plutôt qu'une autre. Alors, je vais commenter ce dissent, parce que vous allez voir, il a donné lieu à beaucoup d'herméneutique aux États-Unis, et dans un sens qui ne me paraît pas forcément pertinent. Voilà ce que dit Holmes pour critiquer la décision Lochner. Le règlement de ce cas se fonde sur une théorie économique, donc c'est le libéralisme, qu'une grande partie du pays ne partage pas. Je crois fermement que mon accord ou mon désaccord avec cette théorie n'a rien à voir avec le droit de la majorité de donner force de loi à ses opinions. Il s'agit ici de la majorité politique américaine telle qu'elle s'exprime au Congrès. Je pense que le mot « liberté » dans le 14e amendement est dénaturé quand il sert à empêcher la conséquence naturelle d'une opinion dominante, hormis le cas où l'on pourrait dire qu'un homme raisonnable et équitable considérerait nécessairement que la loi proposée enfreint des principes fondamentaux tels qu'ils ont été traditionnellement compris par notre peuple et notre droit. » Fin de citation. Alors, Michael Sandels, dont j'ai cité l'ouvrage sur l'évolution de la notion de démocratie dans la philosophie politique américaine, consacre tout un passage à commenter cette opinion de Justice Holmes, et il y voit l'annonce de l'actuelle république purement procédurale, indifférente à la définition du bien public, et qui laisse chacun libre de ses choix individuels. Selon Sandels, la position de Holmes consisterait à dire qu'aucune conception du bien public ne peut être imposée aux Américains, chacun d'eux devant être libre de choisir celle à laquelle il adhère. Et qu'en imposant une conception plutôt qu'une autre, en l'espèce le laisser-faire plutôt que l'interventionnisme, la Cour ne respecterait pas cette liberté individuelle des choix de valeurs qui doivent relever exclusivement des individus et non pas des autorités politiques ou judiciaires. Alors, cette interprétation ne me paraît pas convaincante pour au moins deux raisons. Tout d'abord, parce que les juges majoritaires se réclamaient justement de la liberté reconnue à chacun de faire ses propres choix. Loin d'imposer une certaine conception du bien public, l'arrêt Lochner déclare cet argument inopérant, puisque le bien public invoqué était la santé, précisément, pour dire que cette invocation de la santé n'est qu'un prétexte à une ingérence abusive dans les droits individuels. Et la Cour entend faire prévaloir sur ces considérations d'intérêt général les droits des individus, je répète, la Cour, de faire des contrats dans les termes qu'ils pensent les meilleurs. Donc, voir dans l'arrêt Lochner l'expression et l'imposition d'une certaine conception du bien public me semble assez paradoxal, alors que cet arrêt, en réalité, entend donner la primauté au choix des contractants. D'autre part, s'il est bien exact que Holmes reproche à l'opinion majoritaire d'imposer une certaine conception économique, Ce n'est pas pour dénier la pertinence de cette notion de bien public, mais parce que selon lui, la définition du bien public n'incombe pas au juge, mais aux représentants démocratiquement élus par les citoyens. Holmes admet donc qu'en démocratie, une telle définition du bien public puisse s'imposer aux individus. Mais il estime que ce n'est pas à la Cour suprême de procéder à cette définition. Son propos est de mettre en garde contre un risque qui est, à mon sens, de nos jours extrêmement pesant et manifeste, d'un gouvernement des juges qui, sous couvert de contrôle constitutionnel, font prévaloir leurs propres opinions politiques sur celles de la majorité telles qu'elles s'expriment démocratiquement au travers des élections. Et l'interprétation extensive du 14e amendement par la Cour suprême n'en est que plus révélatrice de la portée de cet arrêt Lochner qui tranche entre les deux conceptions de la liberté qui s'affrontaient depuis le milieu du 19e siècle quant au statut du travail. Je vous rappelle donc la question de savoir faut-il y voir une forme moderne d'esclavage dans le salariat ou au contraire la marque de la fin de l'esclavage. La Cour suprême consacre clairement cette seconde définition de la liberté comme liberté d'aliéner sa liberté. Les partisans de la conception, qu'on peut dire civique, de la liberté des travailleurs défendaient au contraire la limitation de la durée du travail, notamment la journée de 8 heures, car elle constituait à leurs yeux non seulement une préservation de la santé, mais aussi une condition de l'éducation des citoyens qui suppose du temps pour s'informer, se cultiver et participer à la vie de la cité. Du point de vue juridique, le choix opéré par cet arrêt marque ainsi un tournant décisif dans l'histoire de la démocratie économique américaine qui cesse d'être référée à l'idéal de la liberté dans le travail pour se ranger à celui de la liberté du travail. Or, c'est à cette conception de la liberté que s'est rallié le syndicalisme, tant en France qu'aux États-Unis. En France, l'anarcho-syndicalisme d'inspiration proudhonienne l'avait certes apparemment emporté dans la charte d'Amiens de 1905. Alors c'est un document très célèbre pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire sociale française. Je vous rappelle les données de la charte d'Amiens. Donc il y avait une opposition entre justement les courants anarcho-syndicalistes et puis ceux qu'on appelait les guédistes qui entendaient faire du syndicat simplement ce qu'on appellerait ensuite la courroie de transmission pour les partis ouvriers, le but étant la conquête du pouvoir politique dont le syndicat n'est qu'un instrument. Alors que les anarcho-syndicalistes, un peu comme les chevaliers du travail américains, disaient non, le syndicalisme tel que nous le concevons, c'est la matrice de ce que va être une société libre à venir, nous ne devons pas nous assujettir aux partis politiques. La charte d'Amiens, en principe, consacre la victoire des thèses anarcho-syndicalistes. Dans ce passage, en faisant cette distinction entre l'œuvre revendicatrice quotidienne, où on essaie d'obtenir un meilleur salaire, diminution du temps de travail. Mais d'un autre côté, l'autre objectif du syndicalisme, c'est l'émancipation intégrale. C'est le syndicalisme qui est le vecteur de la libération économique et politique dans un même mouvement. Mais la distinction ainsi opérée dans la charte d'Amiens de la double besogne quotidienne et d'avenir accouchera en fait de la division du mouvement ouvrier entre un syndicalisme réformiste qui se donne pour seule tâche d'améliorer les termes de l'échange salarial et un syndicalisme courroie de transmission assujetti à l'objectif de prise du pouvoir politique par un parti révolutionnaire. Ça, c'est pour la situation française. Aux États-Unis, c'est le syndicalisme réformiste qui a supplanté les chevaliers du travail au tournant 19e, 20e siècle. Un changement complet, au fond, dans l'histoire du travail américain à ce moment-là. Dans la pratique, l'action syndicale s'est coulée dans le moule contractuel du libéralisme. Comme les libéraux, les syndicalistes en sont venus à réduire la liberté des travailleurs à la liberté de négocier leurs conditions de travail. La seule différence étant qu'ils estimaient que cette négociation ne pouvait se dérouler de façon équilibrée que sur un plan collectif et non pas sur un plan individuel en raison de l'inégalité des conditions économiques des parties. Autrement dit, la liberté contractuelle individuelle devait, selon eux, être soutenu par des libertés d'organisation, d'action et de négociation collective. En fait, c'est la logique qui allait être celle du droit du travail moderne. Tout en admettant l'utilité de la négociation collective pour améliorer le sort matériel des ouvriers, les partisans de la démocratie économique, encore au début du XIXe, dénonceront la notoire insuffisance de la négociation comme outil d'émancipation. Je l'ai déjà évoqué dans le cas de Brandeis, qui écrit « Bon, contracter avec un syndicat est une étape importante. C'est la négociation collective, c'est un grand pas en avant, admet-il. Mais ce n'est qu'une première étape. Pour que la négociation collective puisse conduire à la démocratie industrielle, il faut aller plus loin et créer pratiquement un gouvernement industriel, une relation entre employeurs et salariés par laquelle les problèmes qui surgissent d'un jour à l'autre et d'un mois ou d'une année à l'autre peuvent être abordés et résolus comme ils peuvent l'être dans le gouvernement du pays. » Donc, vous voyez, cette déclaration date de 1913, elle est au moment de bascule, là, justement, de déclin du chevalier du travail, essor du syndicalisme qu'on dirait réformiste. Selon Brandeis, le véritable obstacle à une démocratie se trouve dans la concentration du pouvoir économique, entre les mains d'une oligarchie financière et industrielle. Brandeis a été le théoricien d'une notion qui me semble très féconde, très éclairante, qu'il appelait la malédiction de la grandeur, « the curse of bigness ». Et il considérait que leur taille condamne en fait les très grandes entreprises au despotisme en même temps qu'à l'inefficacité. Donc il pensait que la course à la grandeur, ça entraîne une concentration du pouvoir et en même temps ça rend l'organisation progressivement inefficace. Son objectif était donc non pas d'abolir l'économie de marché, hein, c'est pas du tout un marxiste Brandeis, ni l'économie de marché, ni la propriété des moyens de production, mais au contraire de les sauver de cette malédiction de la grandeur en assurant une relative égalité politique et économique de tous les travailleurs, salariés ou indépendants. Et c'est pourquoi Brandeis est resté dans l'histoire du droit américain, connu surtout pour son engagement sans relâche pour l'adoption et l'application des lois antitrust. Donc sa réponse, c'est de dire qu'il faut une dispersion du pouvoir économique, éviter sa concentration. Et une telle législation n'était pas seulement justifiée à ses yeux par la préservation de la libre concurrence, ça c'est l'argument de l'efficacité, mais d'abord et surtout par la nécessité politique d'empêcher le pouvoir économique de se concentrer entre les mains d'un petit nombre capable d'imposer leur volonté aux institutions démocratiques. Faute d'être conjuré, selon Brandeis, par la loi, cette malédiction de la grandeur aurait pour effet de gagner inévitablement l'État, parce que l'État serait engagé pour contrebalancer le poids d'un pouvoir économique concentré entre quelques mains, il serait contraint lui-même de grossir, en sorte que les citoyens se trouveraient écrasés entre des puissances économiques et bureaucratiques progressivement hors de contrôle. Bon, c'est ça la malédiction de la grandeur. Pour faire contrepoids à la concentration du pouvoir économique, eh bien, le pouvoir de l'État va lui-même grossir. Pour le dire dans les termes qu'emploiera Roosevelt dans un discours au Congrès en 1938, où l'on retrouve les accents de celui que Lamartine avait tenu en France et que nous avons vu la dernière fois, je cite Roosevelt, « La liberté d'une démocratie n'est pas assurée si le peuple tolère que le pouvoir privé croisse à un point tel qu'il devienne plus fort que l'État démocratique lui-même. » Alors, dans ce discours, se référant aux événements, à la montée des dictatures en Europe, il dit que ces événements nous enseignent à nouveau deux vérités simples quant à la liberté d'un peuple démocratique. La première vérité est que la liberté d'une démocratie n'est pas assurée si le peuple tolère que le pouvoir privé croisse à un point tel qu'il devienne plus fort que l'État démocratique lui-même, c'est ce que je viens de citer. La seconde vérité est que la liberté d'une démocratie n'est pas assurée si son système économique ne procure pas d'emploi et n'assure pas une production, une distribution de biens propres à maintenir un niveau de vie acceptable. Alors, ce discours est particulièrement intéressant parce que on y voit les deux faces de ce qui va être la politique du New Deal, sur lequel on aura l'occasion de revenir. Il y a d'un côté la préoccupation politique de la démocratie économique, et de l'autre, il y a la préoccupation de la prospérité. C'est-à-dire, il n'y a pas de citoyen, c'est un thème permanent dans les discours de Roosevelt, il n'y a pas de citoyens libres s'ils sont dans la nécessité économique. Donc il faut pourvoir un minimum de bien-être économique pour asseoir une démocratie. À l'époque, il ne s'agissait pas d'une simple rhétorique politique stigmatisant la finance. Les thèses de Brandeis et de ses successeurs, notamment de Félix Frankfurter, qui a été professeur de droit à Harvard et qui a été l'un des théoriciens parmi les juristes du New Deal, ont en effet beaucoup influencé ces réformes adoptées par Roosevelt en 1935. Mais comme l'indique la seconde vérité énoncée par Roosevelt dans le discours que je viens de citer, les réformes du New Deal ne visaient pas seulement à restaurer la primauté du pouvoir politique sur le pouvoir économique, mais avaient aussi pour objectif d'assurer à tous un niveau de vie acceptable en favorisant l'emploi, la croissance, la juste distribution des richesses. Et ce second objectif, nous allons le voir, allait progressivement devenir le seul. Donc je passe maintenant à l'expérience du New Deal. Le New Deal a reposé sur trois pieds juridiques. Un pied fiscal, avec une très forte imposition des grandes fortunes et des hauts revenus. Un pied social, avec la création de la sécurité sociale et l'instauration d'un droit du travail reposant sur la négociation obligatoire d'entreprise avec le syndicat majoritaire. Bon, je présume connu à ce stade, dans ces grandes lignes, le système adopté, donc le système de relations de travail à l'américaine, c'est négociation obligatoire dans les entreprises, une fois qu'il y a un accord, et c'est le syndicat majoritaire qui va négocier ce qu'on appelle un contrat qui, pour une durée déterminée, va régir les conditions de travail. Donc la négociation d'entreprise est vraiment au cœur du système américain. Enfin, donc, un pied fiscal, un pied social, un pied commercial qui était destiné à lutter contre la malédiction de la grandeur économique par un renforcement de la législation antitrust et une réforme du système bancaire qui a été adopté dans l'après-crise 1929 et dont l'élément le plus connu fut le Glass-Steagall Act de 1933. Vous avez dû entendre parler du Glass-Steagall. En réalité, cette loi avait été lancée sous la présidence Hoover et elle avait imposé la séparation des banques de dépôt et d'investissement. Il s'agissait d'éviter la concentration du pouvoir. Et De Gaulle introduira une règle semblable en France en 1945, par une loi du 2 décembre 1945. Cette séparation, ce souci de fragmenter le pouvoir dans la banque, si je prends ce cas, a évidemment été ruinée progressivement à partir du tournant néolibéral. Commencé sous la présidence de George Bush père, le démantèlement de cette réglementation bancaire sera achevé par l'administration Clinton en 1999, notamment sous l'impulsion de ses secrétaires au Trésor, Robert Rubin, qui deviendra peu de temps après président de Citigroup, puis Larry Summers, qui deviendra conseiller économique du président Obama, et également sous l'influence, bien sûr, du président de la Fédérale Réserve d'alors, Alan Greenspan. Donc, conformément aux nouveaux dogmes néolibéraux, cette dérégulation du secteur financier était alors présentée comme indispensable à la création de richesses pour l'actionnaire, ainsi qu'à la fluidité des marchés financiers et à la compétitivité des banques américaines. En fait, l'Amérique n'a pas été la première sur cette voie. La France l'a devancée par une loi Delors du 24 janvier 1984 qui a mis fin à la spécialisation des banques et ouvert la voie au modèle des banques universelles, c'est-à-dire celles qui peuvent faire à la fois du dépôt et de l'investissement. C'est celles dont on a découvert depuis qu'elles étaient « too big to fail », donc trop grandes pour être mises en faillite, autrement dit, qu'elles portaient en elles la malédiction de la grandeur diagnostiquée par Brandeis un siècle plus tôt. Alors, j'ai fait un saut jusqu'au présent, mais revenons à l'époque du New Deal. À l'époque, ces réformes avaient valu à Roosevelt l'opposition féroce des dirigeants financiers et industriels, et il leur répondait avec autant de férocité en les désignant comme de nouveaux despotes dans son discours de réinvestiture en 1936. Bon, je prêtais ma voix à Roosevelt. Dans la civilisation moderne, les princes de l'économie ont établi de nouvelles dynasties. De nouveaux royaumes ont été fondés sur la concentration du contrôle de choses matérielles. Toute la structure de la vie moderne a été modelée au service de cette royauté. Il n'y a pas de place dans cette royauté pour nos milliers de petits entrepreneurs ou commerçants qui cherchent à faire un bon usage du système américain favorable à l'initiative et au profit. Ils ne sont pas plus libres que leurs ouvriers ou leurs paysans. Il était naturel, poursuit Roosevelt, et peut-être humain, que les princes de ces nouvelles dynasties économiques, assoiffés de pouvoir, cherchent à étendre leur contrôle au gouvernement lui-même. Ils ont créé un nouveau despotisme et l'ont revêtu des robes des gardiens du droit. Alors là, ça vise directement à la Cour suprême, je vais y revenir. À leur service, de nouveaux mercenaires cherchent à enrégimenter le peuple, son travail et ses propriétés. La durée du travail des hommes et des femmes, les salaires qu'ils perçoivent, les conditions de leur travail, tout ceci a échappé au contrôle du peuple, est imposé par cette nouvelle dictature industrielle. Alors, ce discours, vous le voyez, s'inscrit tout à fait dans l'économie politique de la démocratie, dont nous avons retracé la généalogie de Jefferson à Brandeis, en passant par les chevaliers du travail. C'est l'ensemble du monde du travail, salariés, agriculteurs, petits entrepreneurs, dont la liberté doit être défendue contre le nouveau despotisme exercé par les dynasties qui se taillent des royaumes où ils règnent en monarque absolu et en dehors de tout contrôle démocratique. Et Roosevelt plaçait ainsi le New Deal sous l'égide de la défense de la démocratie contre une forme de despotisme d'autant plus dangereuse que cette nouvelle dictature économique, pour le citer encore, n'avait pas le code d'honneur de l'antique noblesse, était animée que par la cupidité. Nous savons maintenant, dira Roosevelt la même année, que le gouvernement par l'argent organisé est aussi dangereux que le gouvernement par le crime organisé. C'est un discours de 1936. Notez enfin la référence, donc dans ce discours, aux toges des juges, dans lesquelles se drape ce nouveau despotisme. Cette remarque incidente désigne assez clairement la responsabilité de la jurisprudence dans la soumission du pouvoir politique au pouvoir économique. Toutes ces décisions qui ont annulé toutes les lois qui tentaient, par exemple, de limiter la durée du travail. Et cette remarque annonce le bras de fer qui va opposer Roosevelt à la Cour suprême dès l'année suivante. Donc, dès l'année suivante, il s'attaque à la Cour suprême, considérant qu'elle est devenue un obstacle à la mise en œuvre de la volonté démocratiquement exprimée par les Américains. En effet, elle a joué un rôle nodal, la Cour suprême, dans l'adoption en droit américain de cette conception purement contractualiste de la liberté qui était incompatible avec l'ambition d'une économie et politique de la démocratie. Car dans une telle économie politique de la démocratie, la liberté de chacun ne peut se réduire à la libre poursuite de ses utilités privées. Cette liberté suppose une égale participation à la conduite des affaires publiques et exige donc une certaine égalité des conditions économiques et l'identification d'une utilité commune. Donc, cette conception est abandonnée par la Cour suprême, nous l'avons vu dans l'arrêt Lochner, au profit d'une conception marchande de la liberté qui a correspondu à un changement de la perception du travail. Le travail n'est plus pensé dès lors comme le lieu d'exercice de l'autonomie, le creuset indispensable à la formation de citoyens libres et responsables, mais au contraire comme le lieu d'un libre renoncement à cette autonomie, un renoncement négocié, moyennant des compensations en termes de temps et d'argent. Et comme déjà indiqué, cette conception contractualiste de la liberté avait déjà été adoptée par le mouvement ouvrier américain. Lors de la mue de ce mouvement, au tournant des 19e, 20e siècles, avec le déclin rapide des chevaliers du travail et la montée en puissance de l'American Federation of Labor. Celle-ci était était pendant longtemps dirigée par Samuel Gompers, et elle ne se donna pas pour but de défendre la démocratie contre les puissances d'argent, mais de défendre les intérêts salariés dans le cadre du capitalisme industriel. À l'opposition des producteurs, qu'ils fussent indépendants ou salariés, aux capitalistes et aux financiers, fut ainsi substituée l'opposition des salariés aux employeurs, opposition entendue non comme une lutte des classes, dans le cas des syndicalismes américains, mais comme revendication des meilleures conditions de travail possibles. Donc, l'AFL, pour American Federation of Labor, s'est ainsi placée sur le terrain contractuel qui avait été défini par la jurisprudence Lochner, mais pour en obtenir le meilleur parti possible. Selon ses leaders, la liberté syndicale, la liberté d'action collective, notamment de grève, le droit de grève et le boycott, relevaient du droit du marché au même titre que les libertés économiques des employeurs. Voilà ce que déclarait Gompers. Aux États-Unis, les références à l'Évangile viennent rapidement. Tout l'Évangile du mouvement ouvrier tient en une formule, la liberté contractuelle. Le travail organisé non seulement accepte, mais insiste sur l'égalité des droits et des libertés. Donc, Gompers adopte ainsi l'idée que la liberté du travailleur s'identifie à sa liberté contractuelle. Et dès lors, le mouvement syndical va revendiquer les conditions d'une négociation équilibrée des contrats de travail, c'est-à-dire leur négociation collective. Et cette évolution que je viens d'évoquer très rapidement peut être rapprochée de celle qui intervient à la même époque en Europe, telle que l'a décrite dans un livre séminal le grand syndicaliste italien Bruno Trentin, dans son livre sur la cité du travail. Trentin y montre comment la gauche politique et syndicale européenne a adopté, y compris en terre communiste, l'idée du caractère inévitable de la subordination au travail. Cette subordination serait rendue inévitable par le progrès technique. C'est ce qui l'a conduit à abandonner le terrain du contenu de l'organisation du travail pour se placer sur celui des termes quantitatifs de l'échange salarial, c'est-à-dire celui du montant des salaires et de la durée du travail. Dès lors, l'émancipation des travailleurs a changé de sens. Elle n'a plus signifié l'accès de tous les travailleurs à une indépendance économique indispensable à la citoyenneté, mais la liberté de négocier sur un pied d'égalité, c'est-à-dire collectivement, les termes des contrats de travail. Alors, ce changement de paradigme est visible dans le dissent du juge Holmes dans un autre arrêt, l'arrêt Coppedge contre Kansas de 1915, qui, 10 ans après l'arrêt Lochner, censure une loi qui interdisait aux employeurs de faire de la non-adhésion à un syndicat une condition d'embauche. Donc, c'est un type de clause qu'on trouvait dans les contrats collectifs, beaucoup dans le syndicalisme américain. Il y a un accord entre un employeur et un syndicat, et l'employeur s'engage à n'embaucher que des salariés appartenant à ce syndicat. Clause de choc. Ce type de clause avait été condamné donc dans cet arrêt. Vous retrouvez ici la même inspiration chez Holmes que dans l'arrêt Lochner, en fait. Le juge n'a pas à s'immiscer là-dedans. Donc il est fidèle à cette position, et il considère que la censure de la convention collective ne respecte pas le droit de donner force loi à une opinion lorsqu'elle est majoritaire et ne heurte pas le sens commun. En l'espèce, l'opinion selon laquelle les syndicats seraient les seuls à même de garantir une négociation équilibrée des contrats de travail. Alors, il a fallu un certain temps pour que la Cour suprême se range à cet avis. Il a même fallu que le président Franklin Roosevelt, je l'ai évoqué tout à l'heure, lui torde le bras. En effet, fidèle à la jurisprudence Lochner et Coppedge, la Cour avait continué de censurer toutes les lois limitant la libre négociation individuelle du contrat de travail, et notamment celle adoptée sous l'égide du New Deal. Donc la moutarde a monté au nez de Roosevelt, si j'ose ainsi m'exprimer. lorsqu'en 1936 encore, elle a invalidé une loi de l'État de New York qui imposait un salaire féminin minimum. Donc, dès sa réélection de 1936, Roosevelt, fort de la légitimité ainsi confirmée, entreprit de priver le despotisme industriel, pour reprendre son expression, de la protection juridique que lui avaient accordée jusqu'alors les juges américains. Et il engagea une réforme de la Cour suprême. Cette réforme, elle était assez radicale. Elle conduisait à la mise à la retraite de tous ses membres âgés plus de 70 ans. Et pour ceux qui n'accepteraient pas de partir en retraite, on leur nommait un adjoint qui aurait eu les mêmes droits de vote. Alors, cette réforme a été présentée en 1937 sous le nom de Court Packing Plan. Et évidemment, susciter une certaine émotion aux États-Unis, et notamment l'opposition du Congrès. Mais Roosevelt n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de ce projet de réforme parce que la Cour, subitement, a changé sa jurisprudence, opérant ce qu'on appelait le « switch in time », juste au bon moment. Donc elle a changé. Et cela a été aidé aussi par la disparition providentielle, enfin j'évoque la providence aussi au sens de Vico, là, de deux juges conservateurs, ce qui a permis à Roosevelt de nommer deux progressistes à la Cour, donnant ainsi la majorité à des partisans du New Deal. D'où un renversement de la jurisprudence de la Cour suprême qui intervint en mars 1937 avec l'arrêt West Coast Hotel, qui concernait à nouveau une loi fixant un salaire minimum pour les femmes. Et dans cet arrêt, la Cour opéra alors une distinction très intéressante entre la liberty garantie par le 14e amendement et le freedom of contracts, qui n'est qu'une manifestation particulière de la liberty. Je vous l'ai l'attendu principal. La violation alléguée par ceux qui attaquent les lois imposant un salaire minimum pour les femmes et l'atteinte à la liberté contractuelle. Qu'est-ce que cette liberté ? La Constitution ne parle pas de liberté, freedom, contractuelle. Elle parle de liberté, liberty, et interdit la privation de cette liberté sans respect des garanties légales. En interdisant cette privation, la Constitution ne reconnaît pas une liberté absolue et sans contrôle. La liberté, à chacune de ses étapes, à son histoire et sa connotation, mais la liberté garantie est une liberté dans une organisation sociale qui requiert la protection de la loi contre les maux qui menacent la santé, la sécurité et le bien-être du peuple. Donc, dans cet arrêt, freedom, c'est la prérogative individuelle, tandis que liberty, c'est le principe constitutionnel qui tout à la fois reconnaît et garantit à chaque citoyen l'exercice de cette prérogative. Et cette garantie suppose que les prérogatives reconnues à chacun s'exercent dans le cadre de règles qui s'imposent à tous. Faute de quoi, la liberté serait celle du fameux renard libre dans le poulailler libre.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 9 décembre 2016 Alain Supiot, La démocratie face à la dynamique du capitalisme. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours d'Alain Supiot. Le juriste a co-dirigé avec Pierre Musso « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» acte du colloque de Cerisy, publié chez Hermann en 2018. Iconographie web, Claire Poinsignon. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures juridiques de la démocratie économique dans le cadre des réformes du New Deal et nous verrons la redéfinition de la démocratie économique au XXe siècle. Et dans quelques instants, voici les petits matins. Bonne journée à l'écoute de France Culture.